Bonjour à tous, chers auditeurs. Il est 11h01 à la pendule de Radio Canu. Et comme tous les dimanches, de 11 à 12, l'émission musique, etc. débute. Avec aujourd'hui dans les studios le groupe Blowing in the Blues. C'est comme ça.
Blowing in the Blues.
Voilà, donc il y a trois. Donc le groupe est constitué de trois personnes. Donc il y a de gauche à droite Najib Gamaz. Najib
bonjour
Gamaz,
à tous.
Bonjour. Antoine Pérez. Antoine Pérez, bonjour.
Bonjour.
Et Hassen Gamaz.
Hassen hello,
Gamaz.
Hello.
Bonjour. Donc vous formez tous les trois le groupe Blowing the Blues.
Oui.
Et vous faites du blues, non, on peut dire
du blues, oui, du blues, de la folk music, un peu de chansons françaises, un peu de reggae, un peu de country. Oui, mais on est beaucoup orienté sur le blues. En fait, il y a beaucoup de blues et des musiques approchantes.
Ok, je rebalance un bout de générique et on découvre tout ça.
Avec plaisir.
Oui, voilà, musique, etc. débute avec Blowing the Blues et ses trois membres en direct des studios de Radio Canu. Pour musique, etc. On va commencer simplement. Enfin, on va se mettre dans l'idée que vous êtes assez connu sur la scène blues. Vous êtes des références, on peut dire. Alors, par contre, on va partir du principe que les gens vous connaissent pas du tout.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Ah bien, en fait, on tourne beaucoup dans les Capcons, dans les festivals. On travaille un petit peu partout où on peut d'ailleurs. Hein, aussi bien dans les cafés, les bars, les restaurants, partout où il y a de la musique, on a besoin de nous. On a besoin de cette musique où elle est appréciée. On essaye surtout d'apporter un moment de partage avec cette musique que nous aimons bien. À notre façon, essayer d'un petit peu de donner des informations de son origine, de son influence à travers la chanson française, enfin ce genre de choses, quoi. Voilà, tout à fait, Guillaume.
Mmh. Et en fait, ouais, donc, à noter que donc, Najib et Hassen, vous êtes frères tous les deux.
Il paraît.
Ouais.
Depuis un certain temps.
Et puis donc, ouais, on pourrait peut-être faire un petit historique, enfin un côté un peu biographique, parce qu'en fait, tous les deux, vous êtes, vous avez, depuis votre plus jeune âge, vous avez été, enfin vos parents, dans votre famille, il y avait beaucoup, beaucoup de musique.
À la maison, oui, tout à fait.
Ça, on peut peut-être en parler, enfin.
Si tu veux, peut-être que Najib a un mot à dire là-dessus,
oui,
parce que moi, j'en ai parlé dans un grand interview. Qui on peut lire sur Blues & Co.
Oui, bah peut-être donner la référence de cet article qui est passionnant, quoi, et
voilà,
qui a été fait par un animateur de Radio Canu.
Tout à fait, c'est notre ami que je salue, je crois qu'il est à l'écoute, c'est notre ami Pascal Martin. Salut mon Pascal. Et en fait, il m'a permis d'avoir accès à l'interview pour le magazine Blues & Co, qu'on peut consulter sur le net. Sur, je crois, www.blues&co, tout simplement. Où j'explique un petit peu tout, on m'a demandé d'expliquer comment tout ça avait commencé. Peut-être que je vais laisser justement parler un peu Najib, parce qu'il n'a pas eu le temps de s'exprimer là-dessus. Donc il a lu l'interview, j'espère qu'il est tout à fait d'accord avec ce que je dis ou pas, c'est à lui qui va le dire.
Nope. Voilà. Bon, alors tout d'abord, je tiens à remercier Radio Canu, parce que c'est vraiment, je le dis à chaque fois que je viens, mais c'est une radio lyonnaise, et c'est une radio qui est faite d'abord, avant tout pour les auditeurs et pour la culture. Un petit truc avant de passer effectivement à notre petite historique, c'est que Hassen a eu, à travers un ami qui s'appelle Monsieur Legros, une mise en place dans les médiathèques, parce qu'il faut en parler aussi.
Tout à fait.
On a un concert, une conférence, où effectivement, là, on propose non seulement de découvrir le blues à travers les chansons, mais aussi à travers son histoire. Et il y a tout un processus qui nous emmène comme un petit voyage au pays de ce blues. Et ça prend de plus en plus. Et on est très content de porter cette histoire. Et s'il y a des gens qui vraiment sont intéressés, donc ça se passe. Pour le moment, dans les médiathèques, mais on peut le proposer dans des tas de lieux à Seine, hein, comme les maisons de la culture, comme les centres sociaux, etc. Et aussi, et ça, on a une certaine forme de fierté à le faire, on va dans les écoles. Ah, Zen.
Tout à fait.
Parce que les grands tanks, les jeunes, et chaque fois ils nous lisent, ils découvrent une chanson jouée directement. C'est-à-dire, et eux qui sont gavés à longueur de journée de numérique, ils s'aperçoivent qu'avec des instruments et une voix, on peut chanter, on peut s'exprimer. Voilà. Maintenant, concernant notre histoire familiale, Hassan, je crois que l'a très très bien expliqué dans l'interview qu'il donne dans Blues & Co, à savoir que on était depuis tout jeune baigné dans cette ambiance musicale. C'est vrai que beaucoup de choses ont été déclenchées par le fait que mon grand frère a commencé par jouer la guitare, parce qu'il était l'aîné, et que tout ça nous a donné envie de faire de la musique au même titre que lui. Voilà, on va résumer à ça, parce que ça serait assez long. Et le petit clin d'œil qu'il faut toujours donner, c'est qu'effectivement, on a été élevé dans le quartier des États-Unis.
Ah oui, ça c'est... Et c'est là que vous, en fait... Hassel le dit dans l'article avec un clin d'œil, c'est ça en fait qui...
Eh oui, nous avons grandi aux États-Unis, boulevardé, Lyon 8e. Bonjour les États.
et qui, à tes yeux, vous donne une légitimité pour...
Ben, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de... J'ai fait des recherches un petit peu dans les archives. Et je le savais, on nous l'avait dit quand on était jeunes, qu'il y avait une partie de ce quartier de fin de l'arrondissement qui s'appelait Village Nègre. Et nous, ça nous amusait de penser qu'on était à côté du Village Nègre, et surtout qu'on était très marqué par le blues. Enfin, pour ma part, j'explique dans l'interview aussi, c'est que ma mère jouait de la percussion, et des musiques du Maghreb et des musiques arabes, qui sont tout à fait proches de la musique africaine, et qui ont beaucoup de musique, de mesures ternaires, des 6-8, des 9-8, des 12-8, même des 7-8, d'ailleurs des mesures impaires. Et j'ai dû être sensibilisé, je le pense. Je peux me tromper, hein, mais il me semble qu'à moi que c'est un peu à cause de ça que je m'ennuie assez avec les musiques binaires, sauf quand c'est du groove. Mais autrement, voilà. Donc c'est.
Par contre, là, je t'arrête un instant parce que ça peut te paraître évident, mais pour les gens qui seraient pas du tout musiciens, simplement entre de la musique binaire et la musique ternaire, en l'expliquant avec des mots de tous les jours.
Eh bien, la musique binaire, elle se compte en faisant sur les... On a par exemple 4 temps, pour la mesure la plus simple, celle la plus utilisée, c'est une mesure à 4 temps. Quand on dit 4-4, ça veut dire que c'est une mesure avec 4 temps, dont chaque temps qui est occupé par une main, qui se compte 1, 2, 3, 4. Une mesure binaire va se compter par des divisions binaires. 1 et 2 et 3 et 4. La mesure ternaire, elle va être divisée en 3 parties. Chaque temps va être divisé en 3 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Donc ça donne quelque chose qui va tout changer. C'est qu'en binaire, on n'a qu'une partie forte, une partie faible. 1 et 2 et 3 et... Tandis que la musique ternaire, elle donne de l'espace. Ça crée, on peut créer des syncopes et c'est se décaler dans le temps. C'est ce qui va être très important en jazz et en blues. Et on obtient 2 parties faibles pour une partie forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. La différence, elle vient de là. Ce qui fait qu'après, on peut jouer, si par exemple des chansons françaises...
J'allais dire illustrer, jouer un
morceau. Voilà, donc une chanson française qui...
Non, mais à la limite, faites un morceau, comme ça...
Ouais, d'accord.
Je vous prends peut-être de court.
Non, du tout. On va attaquer un morceau. Je chantais Nejib. Je voudrais juste faire un petit bonjour au passage. On a notre petit frère, notre frère plus jeune, qui est à l'hôpital de la Croix-Rousse. Je ne sais pas s'il a réussi à avoir un écouteur, puisqu'il m'a demandé, il m'a dit qu'il a s'il trouve un écouteur. Alors, on salue notre frangin Toufik, qui est à l'hôpital pour une raison de santé. Salut à toi, frangin.
Salut Toufik. Bonjour Toufik.
Well, my baby left me, my new gun to lay. Lost my money and a pocket game. I wish Tom came summer day. Got the house, I'm leaving the way. I got so much trouble. Bound you drive me insane. Well, I'll start seeing whiskey, wine and gin. Call me last week, last night again. Now the sheriff, come inside. pajamas on. I'll hit a Rosebone. Now I'll get off to pull my door. Evilly to change the lock of the door. So much trouble. I got so much trouble. So much trouble. About you drive me insane.
So much trouble, the Sonny Terrible McGee.
Oui, présentez peut-être le morceau. Non, donc là, on vient d'entendre Blow in the Blues, là. Donc le groupe Blow in the Blues. Et donc, peut-être, ouais, parler de ce morceau.
Bien dit, il va s'en charger, puisque c'est lui qui l'interprète.
Merci, Hassan. Alors, c'est un morceau d'un duo qui est très, très connu, qui s'appelait Sonny Terrible McGee, qu'on a découvert, justement, grâce à mon grand frère qui a amené des disques. Mais nous, on a découvert ça parce que c'était un duo qui utilisait, effectivement, deux guitares, le chant et surtout un harmoniciste qui a fait référence dans le blues, qui s'appelle Sonny Terry, et qui était, tous les deux avaient une infirmité. Sonny était aveugle.
Tout à fait.
Et Terry McGee était, lui avait un pied beau. Et ils ont popularisé, on va dire, le blues country, on peut dire ça.
Le country blues.
Voilà, country blues. Dans les années 50 et surtout dans les années 60 où ils ont fait une tournée en Europe, etc. Donc voilà, c'est les deux bluesmen qui ont amené en Europe la facilité et la popularisation du blues. Voilà.
Du country blues, hein, parce que le blues en France était là depuis à travers le jazz. Savoir qu'en France, il y a eu une grande période dans les années 20 où des noirs américains sont venus s'installer à Pigalle, à Paris.
Oui, on a parlé un peu avant, parce qu'en fait, on a l'image de cette musique, dans l'imaginaire populaire, on a l'impression que c'est né aux États-Unis plutôt vers les années. Ouais,
mais fin 19e, début 20e.
Non, mais après, moi je te parle des clichés qu'on a sur cette musique. Mm-hmm. Donc on croit que ça vient, je sais pas, années 60.
En France, oui, parce qu'en France.
Aux États-Unis, mais toi tu m'as expliqué avant l'émission, donc ce que tu vas nous dire là maintenant.
Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que donc dans les années 20, sur Pigalle, se sont installés des musiciens noirs qui avaient ouvert des clubs de jazz, parce que en 17, pendant la guerre, les Américains sont engagés dans la guerre et avaient envoyé des soldats noirs qui avaient, eux, accepté d'habitude, qui refusaient de s'engager dans l'armée américaine pour servir puisqu'il y avait les lois de ségrégation. Au passage, je voulais spécifier que le blues est post-esclavage. Il est né avec les lois, ce qu'on appelle les lois Jim Crow, dont on parle beaucoup ces temps-ci, à cause de ce qui s'est passé avec Griezmann, avec les défilés black qui se passent à Lille, tout ça et compagnie. Donc, en fait, Jim Crow est une image du noir imbécile, bête, qu'on traitait comme une... Donc, elles ont servi de... C'est un personnage fictif qui a donné son nom aux lois de ségrégation dans le sud des États-Unis. Et c'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de réactions quand on voit des gens, des blancs grimés en noir. D'ailleurs, après, il y a eu les whiteface. Hein, donc, Bob Dylan fait ça en commençant son film qui s'appelait Renato et Clara. C'est pour ça qu'on le voit arriver avec un masque et grimé en blanc. C'était pour inverser la chose. Tout ça, c'est l'histoire du blues. Elle vient surtout que c'est post-esclavage parce qu'elle devient une musique de communautaire. Pour les Afro-Américains, mais en même temps, à l'époque, c'est mélangé au jazz. Il faut savoir que les gens, surtout cette musique, elle était porteuse à la fois de ce qu'on disait du country blues, mais vraiment c'est de la campagne, country ça vient de la campagne, et aussi dans les grandes villes. C'est-à-dire que par exemple, la Nouvelle-Orléans, où il y avait une grande présence française, on le sait, puisque la Nouvelle-France partait de Québec jusqu'au golfe du Mexique, et s'est appelée la Louisiane, à cause d'un général, en hommage à Louis XV. Donc c'est comme ça que c'est devenu la Louisiane, qui a été cédée petit à petit par les Anglais. Donc tout ça. Mais il faut savoir qu'à la Nouvelle-Orléans, par exemple, il y avait eu un opéra un siècle et demi avant les grandes villes de l'Est des États-Unis, Boston, New York et compagnie. Donc il y a un grand. On n'a pas le temps d'en parler, mais il faut savoir ça. Donc, ils étaient venus à Paris, tous ces gens, qui s'étaient engagés dans l'armée américaine pour venir, mais l'armée américaine ne voulait pas leur donner des armes, et les soldats noirs ont été pris en charge par l'armée française, qui les a traités un peu mieux qu'ils n'étaient traités à l'habitude. Et surtout, il y a eu un chef d'orchestre qui s'appelait James Reese Europe, qui avait un groupe de jazz, et qui a joué un petit peu partout, et les gens ont adoré ça, donc ils ont commencé à faire des concerts.
J'insiste sur le fait que là, ce dont tu parles, c'est à Paris, dans les années 20.
Voilà, et en plus en France, hein, ça s'est répandu.
Oui, en France, oui.
Ça s'est répandu en France, hein, après, ça s'est répandu en France. Et donc, toutes ces boîtes, on avait, à la fois, à l'époque, le blues et le jazz étaient presque confondus. C'était pas du tout, comme aujourd'hui, clivé. Seulement, il s'est passé un phénomène, c'est que dans les années 60, il y a eu un revival, d'abord dans les années 50, du jazz, qui en Angleterre, et donc dedans, forcément, du blues. Mais du blues qui est ce qu'on appelle le blues, par exemple, vaudeville, de Bessie Smith, de Marianne, tous ces gens-là, qui est proche du jazz. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de leurs titres sont font partie du tronc commun. On vous fera un morceau tout à l'heure qui s'appelle Nobody Knows You When You're Down and Out, où on voit bien que c'est à la fois jazz et blues, en tout cas dans les racines. Et il faut savoir que le jazz et le blues sont un tronc commun dont tu me parlais tout à l'heure, c'est les spirituals.
Et d'ailleurs, je tiens à faire une petite dédicace à Pierre Max.
Bah, bonjour, qui fait Pierre Max.
Pierre Max Roussillon, voilà. Qui fait partie d'une chorale de négro-spirituals.
Voilà. Alors, spirituals.
Petite parenthèse.
Spirituals, c'est quand même spirituel, ah
ouais,
d'accord.
Oui,
God spell qui en découle, ça veut dire l'enchantement divin, le God spell. D'accord, en anglais, c'est ça que ça veut dire. Ils ont un peu ce tronc commun. Le blues, lui, s'en démarque un petit peu. Parce qu'il se démarre, il veut prendre une distance avec plus ou moins avec la religion. Et encore, il y a du blues religieux. Hein. Donc il faut encore. Et le jazz, lui, étant beaucoup plus marqué par la musique européenne, beaucoup plus structuré, beaucoup plus. C'est encore autre chose. Mais tout ça, c'est la même chose au départ. C'est ça qu'il faut bien savoir. Donc le blues est né post-esclavage. Il vient en France dans les années 20 à travers le jazz. Par exemple, des gens qui en découlent. Pour le jazz, on a Charles Trenet, et pour le blues, même Boris Vian en a parlé, Georges Brassens. Georges Brassens, c'est quelqu'un qui est à la fois marqué par le jazz, le swing, et à la fois par le blues. À l'époque, on a beaucoup de gens, dont Django Reinhardt, tout, Gus Wiesor, ben, tous ces gens-là qui sont sur Paris, et qui ont le Hot Club de France, nous on va venir Grappelli, nous on va venir tous ces gens, après tous des gens comme Eddie Lewis, comme Bernard Lubat, ça, qui ont développé le jazz en France. Donc en France, il y a une tradition du blues qui n'est pas dépendante directement des années 60, où il y a eu un revival du blues, d'abord parce que les Beatles avaient adapté toute la Motown, ils avaient chanté des chansons, ensuite il y a eu les Rolling Stones qui se sont accaparés le côté Muddy Waters, Johnny Hooker et compagnie. Quand ils sont retournés d'ailleurs aux États-Unis qui chantaient ces chansons, les journalistes américains me disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Ils disaient, mais elle vient de chez vous, c'est Muddy Waters, c'est Howlin' Wolf, mais qui sont ces gens-là? Parce qu'à l'époque, les Blancs aux États-Unis n'écoutaient pas la musique des Noirs. Il faut savoir qu'en fait, rock'n'roll, c'est un animateur radio comme toi, mon cher Guillaume, qui a inventé le mot, enfin qui s'en est servi, à cause d'un film, qui, s'il te plaît, rappelle-moi, Graine de Violence.
Oui, Graine de Violence, oui.
Avec Sidney Poitier, je crois. Et puis, non, pas Sidney Poitier,
non.
C'est Glenn Ford.
Glenn Ford, oui.
Oui, il parle de rock'n'roll. Il y a le mot rock'n'roll qui se glisse là-dedans. Et à l'époque, Alan Freed était un animateur radio extrêmement connu aux États-Unis. Et parlant de Rhythm and Blues, on ne pouvait pas prononcer ça, parce que Rhythm and Blues, c'est la partie qui est venue juste après le blues, sur Chicago et ailleurs, hein, déjà. Et il faut savoir que des gens comme Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, des gens comme ça, ont enregistré dans une maison de disques à Memphis, qui était dirigé par Sam Phillips. Et Sam Phillips faisait partie de ces producteurs de studios et tout, qui avaient beaucoup travaillé à la fois avec la country, à la fois avec le blues, et le rhythm and blues, pour ceux qui... Donc, ces gens, ils ont travaillé ensemble. On voulait pas dire qu'Elvis Presley chantait de la musique noire. Il fallait surtout pas dire ça, ou des choses comme ça. Et Alan Freed, quand il présente des disques de rhythm and blues, mais joués par des blancs, pour ne pas dire rhythm and blues, comme style, il dit rock and roll. Et c'est pour ça que le mot rock and roll est apparu. Aujourd'hui, il veut dire autre chose, mais il faut savoir que ça vient de ça. C'est un mélange de country, de blues et de rhythm and blues. Les premiers morceaux, on vous fera tout à l'heure un morceau de Big Harder Crudup, qui a été un des premiers bluesmen dont Elvis Presley s'est énormément inspiré. Par la suite, il choisira un autre bluesman de Chicago, lui plus électrique, qui s'appelle Jimmy Reed. Mais il a donc il a repris Big Boss Man, il a repris d'autres choses comme ça.
Et alors, excuse-moi de te couper,
je suis peut-être un peu long là.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais pour revenir un instant sur Elvis Presley, c'est une question. Parfois, il y a un reproche qui est fait à Elvis, c'est en fait le fait qu'il est un peu vampirisé justement la musique noire. Alors toi, est-ce que tous les trois vous avez plus de culture que moi là-dessus, donc peut-être parce qu'on se dit Elvis il arrivait, mais en fait il faisait de la musique noire, mais ça passait. Voilà, donc puis il y a aussi cette idée qu'il a vampirisé.
Bah, il l'a jamais nié. Il n'en parlait pas tout simplement parce qu'il fallait pas en parler. Je suis pas dans la tête d'Elvis. Moi ça n'a pas été quelqu'un qui m'a marqué énormément. Et Jim un peu plus. Il a écouté plus que moi. Et mon frère Jamel qui a disparu. On a perdu un frère. Et il était j'ai écouté possible. Plus tard que j'ai découvert Elvis Presley, je l'ai découvert beaucoup plus tard parce que je m'étais déjà plongé dans le blues. Et pour moi, c'était un peu désaccoté, mais c'est pas une critique que je fais. Je parle de mon parcours là. J'étais déjà parti dans d'autres choses. C'était pas mon truc. Je suis plus revenu au rock'n'roll parce que, enfin, je l'ai plus vu à travers, en remontant la piste des Beatles et compagnie. C'est plus par là que je suis arrivé à la forme du rock'n'roll, parce que le blues m'a tout de suite marqué. J'ai tout de suite été attiré par cette musique avec le jazz. Le rock'n'roll, c'est venu après, puisque Niji m'aimait bien ça, par exemple. Comme on a grandi ensemble, on a un an et demi d'écart, on partageait beaucoup de choses. Donc, et puis après, il a intégré, donc, comme j'explique dans l'interview, un groupe que j'avais monté avec un copain batteur, qui s'appelait Roger Acosta. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Elles se découvraient les unes après les autres. Ça menait comme ça. Mais pour ce qui est d'Elvis, je suis pas très bien placé pour en parler. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup repris Big Arthur Crudup, et c'était surtout, faut savoir qu'il a été ami avec B.B. King, parce qu'il venait un petit peu du même coin. Lui, il est de Tupelo, et B.B. pas loin là-bas, donc Albert King aussi d'ailleurs.
Ce que je veux dire, c'est un reproche qu'on pourrait faire, un reproche entre guillemets, mais qu'on pourrait faire aux Rolling Stones. Le fait
pour les Stones, c'est assez. Confus. Mais si par contre, il y a un groupe qui s'est accaparé la musique, qui a eu des gros problèmes par la suite, c'est Led Zeppelin. Zeppelin qui par contre a repris, c'est carrément il a des problèmes avec Willie Dixon pour les reprises de morceaux auxquels ils ont posé leur nom dessus. Il y a eu des gens qui ont fait ça, c'est pas les seuls, mais à l'envers, de gens comme Eric Clapton qui avaient touché les droits et qui ont allé les reporter, par exemple pour Spoonful, ils ont fait ça pour Willie Dixon. Ils avaient repris I'm So Glad de Skip James, un bluesman qui s'appelait Skip James. Ils ont récupéré l'argent pour aller là où il était, dans une maison médicalisée, on va dire. Ils l'ont fait soigner avec son propre argent, hein, puisque c'était à lui, donc avec ses droits d'auteur, ils l'ont fait remonter sur scène. Donc il y a eu des choses comme ça qui ont été faites.
Bon, certains avaient une éthique quand même.
Carrément, il y avait qui... Bon, après, quelle est la partie de mythe, quelle est la partie réelle? On sait qu'il y a eu des choses réelles qui sont passées, puisque, par exemple, Willie Dixon a bien confirmé que Clapton était venu avec une valise d'argent liquide, et qui lui a dit, monsieur, c'est à vous, c'est votre argent. Il faut savoir qu'à l'époque, les Noirs trouvaient, je n'avais pas de droit d'auteur. États-Unis, hein, faut remettre tout ça en perspective.
Voilà. Oui, t'as raison, Hassen. Si tu permets, simplement, deux remarques pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Hassen. La première, c'est un petit clin d'œil au quartier des États-Unis. Pourquoi il s'appelle comme ça? Effectivement, c'est l'actualité. Puisque je rappelle que les États-Unis sont entrés en guerre en 1917 et que ce sont des troupes américaines qui se sont installées, ça je dis ça pour les Lyonnais, qui se sont installées dans ce quartier. Ah, qui,
ça,
à l'époque,
on sait pas. C'est où, Village Nègre, ou ça?
Voilà.
Ah, pareil, c'est les deux.
Donc, il y a eu d'ailleurs une très bonne exposition à la médiathèque de Pardieu, où effectivement on voit des photos, il y a même des films, on voit défiler les troupes américaines donc, qui étaient installées aux États-Unis. Maintenant, concernant, et là ça, je vais répondre un petit peu à Hassen, parce que le rebondir sur ce qu'il dit, il ne faut pas raisonner en matière musicale et en matière ethnique comme chez les Américains, comme nous raisonnons nous en France. Il n'y a pas de récupération forcément systémique, il y a plutôt des gens qui, voilà,
des petits malins,
écoutent de la musique. Voilà, et qui en font un business, on va dire, et puis
il y a eu une vraie ségrégation,
c'est pas ce que je suis en train de dire, Hassen. Je parle de musique, là. Ce que je veux dire, il n'y a pas de vraie barrière, il y a plutôt des gens qui écoutent de la musique, d'autres qui l'apprécient plus ou moins, d'autres qui la transforment, d'autres qui font du business. Ils n'ont pas cette, on va dire, on est d'accord là-dessus.
Je suis pas vraiment d'accord.
Ils ont pas,
on interdisait les blancs d'écouter la musique noire.
Non, mais je pense aussi.
C'est par la suite que ça.
Parce que ce que vous voulez peut-être dire, moi, ce que je voulais dire, enfin, en tout cas, le peuple noir t'es peut-être pas en mesure d'amener et de diffuser la musique qui...
Non, mais Guillaume, ça allait jusqu'à... Ça allait jusqu'à les radios, qui a été un des plus grands instruments de la transmission de la musique aux États-Unis. Des maisons de disques s'appelaient les Race Records. C'est-à-dire qu'elles avaient un nom pour la race. Non, il y a vraiment eu de graves problèmes à ce niveau-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'expliquais tout à l'heure que quand les Stones sont arrivés aux États-Unis, c'est eux qui ont appris que Muddy Waters, Rolling Wolf et compagnie étaient des musiciens américains. Évidemment, quand on leur a dit que c'était des musiciens noirs, c'était autre chose. Mais c'est pour ça qu'on s'est aperçu qu'ils les ignoraient. Non, il y a vraiment eu, attention, c'était du costaud, hein. C'était pas de la.
Ah oui,
de la rigolade, hein. C'était bel et bien interdit. Et par exemple, Elvis Presley, pour en parler, si j'ai un détail qu'on m'a raconté, c'est qu'en fait, il a commencé à écouter du gospel et tout, parce qu'il s'évadait le dimanche matin de la messe de l'église blanche, il passait par derrière avec ses amis pour aller écouter les chants gospel dans les églises noires. Donc il y avait bel et bien quelque chose de
ouais,
c'est comme ça qu'il a appris ça. Bon, alors donc après que le public plus tard dans les années 60 se soit mis, mais à l'époque si c'était bel et bien ségrégé, hein, c'était il y a pas de pas de souci.
D'accord, voilà,
pas de souci. Bien, on va peut-être en jouer un peu.
Oui,
un autre.
Ouais,
voilà, on va faire un autre de Sonny Stranival McGee que Najib va interpréter.
Moi, bon, c'est
en sol majeur, monsieur.
C'est une chanson qui s'appelle My Fault. C'est un thème qui revient assez souvent dans le fou, la culpabilisation.
I'm begging, baby, that's for my fault. Give me one more chance. And I correct it all, because it was my fault. One more chance, and I correct it all. I walked over, left you to one world. Something I knew, babe, something I probably heard, because it was my fault. One more chance, and I correct it all.
brownie hurt because it was my fault. One more chance and I correct it all.
Blowin' the Blues, le groupe Blowin' the Blues, donc en direct des studios de Canu dans musique, etc. Donc on présente un peu peut-être le morceau, vous l'avez présenté un peu rapidement, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Alors c'est pareil, c'est le même groupe, c'est le même duo dont parlait Nigel tout à l'heure, qui en fait a été un duo un peu fabriqué, hein, pour venir donc comme j'expliquais, en France, en Europe, on a fait venir des bluesmen à partir du moment où ça commençait vraiment à devenir très important, ça marchait énormément en France, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, jusque dans les pays nordiques, hein, jusqu'aux pays scandinaves. Après, ça s'est répandu à travers le monde. D'ailleurs, le blues est devenu aujourd'hui une musique universelle. Hein. Au début, c'était une musique communautaire, mais c'est devenu une musique universelle. Donc, tout ça s'est répandu. Et là, on a organisé des tournées de bluesmen. Et par exemple, un des plus grandes figures qui a eu du blues du Mississippi, le premier figure marquante, hein, était Charlie Patton, puis Son House, c'est un de leurs disciples, hein, qui s'appelle Robert Johnson, que Eric Clapton a rendu célèbre, et d'autres, bien sûr, qui, avec Tommy Johnson, enfin, je ne vais pas faire la liste, hein, parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne pouvais même pas comprendre tout ce que j'avais noté. Donc.
Non, ces noms-là, je les connais. Ouais.
Voilà, mais donc après, ce sont les plus connus. Hein.
Ouais.
Donc, c'est à partir de ce moment-là, mais on après, a cherché à faire venir.
Après, non, j'invite les gens, on dira, on retrouve l'article, mais après, toi, t'as une culture, vous avez une culture, tous les trois, immense. Donc, il y a plein d'autres artistes. Hein, donc, là, tu parles vraiment des...
D'accord. Donc,
Je te laisse pas suivre.
Il faut savoir, par exemple, que John Hammond, je vous conseille aussi un film qui s'appelle Bessie, parce qu'en fait, les Afro-Américains, maintenant, de plus en plus, racontent eux-mêmes leur histoire, même si racontée aussi bien par un grand musicologue, ethnomusicologue qui s'appelle Alan Lomax, qui a fait un livre qui s'appelle Au pays du blues, où il parle un petit peu de l'histoire du blues, de la folk music, parce que ce monsieur a monté un label, où il a d'ailleurs pour la folk music, c'est quand même lui qui a fait connaître Woody Guthrie, et de l'autre côté qui a fait connaître Led Belly, un prisonnier noir américain qu'il a été allé chercher en prison. Il a travaillé beaucoup dans les prisons pour faire sortir les gens de prison et tout à travers leur musique. Ça aussi, c'est très discuté dans le blues. Hein. Il faut aller sur les forums de blues pour se rendre compte qu'il y a des véritables batailles de fond, comme dans le jazz d'ailleurs. Des batailles de fond, hein. C'est pas de la rigolade. Hein. Donc, mais ça les regarde, ça. Hein. Moi, je vois la musique, j'adore l'histoire de tout ça parce que je la trouve universelle. Elle est d'ailleurs assez proche. Je pense que c'est des choses qui nous ont marqué, nous, par rapport à l'histoire coloniale française. Hein. C'est d'ailleurs pourquoi il faut savoir que les Noirs américains sont partis de France quand ils ont appris ce qui se passait en Afrique. Parce qu'au début, ils trouvaient que la France, ils les avaient super bien accueillis, mais quand ils ont appris ce qui se passait en Afrique, là, ils ont pris les choses autrement. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est une histoire que les gens le savent, le sachent. Hein, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, elle est porteuse de l'histoire humaine, c'est ça qui est important. C'est de savoir ce qui s'est passé dans l'humanité, tout ce qui est parti du début du 19e siècle jusqu'à nos jours, il s'est passé énormément de choses. Donc, il faut savoir que ça, à la fois, c'est très contemporain, mais ça a des racines lointaines. Et donc voilà, peut-être que nous, c'est peut-être ça qui nous a fait parler, puisqu'il existe beaucoup de points communs, en tout cas des similitudes de sentiments entre cette affaire, qu'on est dans un endroit où on a l'impression qu'on nous fait penser qu'on n'a rien à y faire. Donc le blues, c'est un peu ça, c'est ce côté, c'est ce côté africain, avec une connotation vaudou. Le vaudou est une religion qui était dans l'ancien empire du Dahomey, d'accord, avec un esprit qui s'appelle l'Egba. Cet esprit-là, là, il n'a rien ni de diabolique, ni de démoniaque. C'est un esprit qui se situe entre l'esprit des disparus, mais au niveau de l'esprit, c'est quelque chose, hein, et les vivants. C'est celui qui fait passer, une espèce d'homme de passage, hein, on va dire, entre les deux mondes. Et en fait, quand on parle de Robert Johnson, qui n'a pas été le premier, hein, dont on a parlé, d'avoir signé avec le diable, il faut bien comprendre que c'est le premier d'abord, c'est Tommy Johnson, et c'est son frère qu'on a parlé. C'est pour ça que si on voit le film Oh Brother, ça n'est pas une erreur. Quand il croise le bluesman dehors, il s'appelle bien Tommy Johnson, et le premier dont on a parlé. Et après, c'est devenu presque commercial. Il y a eu Petey Strow qui se faisait appeler. Après, c'était la surenchère. Petit Bistrot se faisait appeler Grand Shérif de l'Enfer. Il y avait un autre bluesman qui se faisait appeler le Neveu du Diable. C'était devenu... Bon, faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle des gothiques, ils continuent la tradition à travers le métal, venant du blues, c'est pour ça qu'il y a autant de représentations sataniques, et c'est censé continuer ça. Et les gothiques aujourd'hui, eux, prennent l'ésotérisme de Edgar Poe. Ils se disent des descendants de Edgar Poe, qui, pour rappel, a été traduit en français par Baudelaire. Donc, qui a donné une grande importance en Europe à Edgar Poe. Il faut savoir que des gens comme Maupassant, quand il écrit ses petites nouvelles et compagnie, s'inspire d'Edgar Poe. Ça, voilà, voilà, tout ça. Donc, tout ça est lié. Faut bien le... Et il y avait aussi tout. Tout ça existait chez les Noirs américains qui avaient pu s'en sortir, ceux qui avaient pu s'évader, et qui avaient pu partir vers le Canada ou vers le Nord, et qui avaient réussi à faire certaines choses. Et donc, il y a vraiment eu toute une grande richesse. Il faudrait pouvoir je peux pas le faire dans une seule émission. Donc, mais il faut savoir qu'on peut se renseigner là-dessus, qu'il y a plein de choses maintenant. Et que, donc, Lomax a raconté des tas de musicologues, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Bibliothèque nationale du Congrès des États-Unis a demandé à des musicologues ethno et des ethnologues, c'est pour ça qu'ils ont créé cette branche qui s'appelle l'ethnomusicologie. Ils ont demandé à ces gens-là de parcourir les États-Unis et de chercher toute la musique folklorique, parce qu'il fallait bien qu'ils se construisent une culture, quelque chose. Donc ces gens sont allés un peu partout, et ils ont commencé, comme ils n'écrivaient pas cette musique, ils ont commencé à les enregistrer, c'était début des enregistrements, dont le père Alan Lomax, qui était déjà là, et d'autres, qui ont fait toutes ces recherches, enregistré les gens, monté des labels, ont commencé à parler de toute cette musique. Par exemple, le mot « country music » est un mot générique. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire « musique des campagnes ». Mais en fait, c'est ces gens-là, quand ils sont déplacés, parce qu'au départ, la grande partie du répertoire, je ne suis pas un spécialiste de la country music, hein, mais ce que j'ai pu en lire, c'est que au départ, c'est toute la musique des Appalaches, donc de l'Est, beaucoup teintée de musique irlandaise, beaucoup de... Et par la suite, de ce qu'on appelle les rednecks, hein, qui ont une connotation un peu, d'ailleurs... sulfureuse, puisque proche donc de la ségrégation et compagnie. Et ensuite, il s'est répandu à travers toutes les États-Unis. C'est pour ça qu'on a appris le... Parce qu'au début, ça s'appelait Hillbilly. Le Hillbilly, c'est, vous savez, que c'était une connotation péjorative. C'est un peu le pec de la montagne. C'est un peu ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on, d'ailleurs, quand on a fait Rockabilly, c'était aussi parce que c'était mélangé avec... Il y avait cette connotation, d'accord, qui a un peu disparu après, mais qui se séparait du blues. Et après, ça s'est revenu par le rock'n'roll, le rhythm and blues. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois, il y a eu des mélanges, puis tu m'en parlais tout à l'heure, donc voilà ce qu'il faut savoir à ce niveau-là. Donc, tous ces gens se sont déplacés, ont enregistré les gens, tout ça. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne le blues, le jazz, et le jazz était déjà précurseur là-dessus, hein, les Afro-Américains commencent à raconter eux-mêmes. Il y a un film qui va sortir, je crois que ça s'appelle Black Panther, où on voit ça. Et on voit de plus en plus les Noirs raconter leur propre histoire. De plus en plus, pour dire, c'est pas que ce que Lomax et tout ça pas intéressant, c'est que maintenant, ça ne suffit plus. Mais il semble, que j'ai un neveu que je salue, Nessim, qui étudie en histoire, et me dit qu'aujourd'hui, justement, de plus en plus, ils viennent compléter l'histoire qui a déjà été faite. D'ailleurs, les descendants des ségrégés, des colonisés, ils commencent à écrire eux-mêmes, à faire leurs propres recherches à travers leurs ancêtres, leurs familles. Et donc, ils commencent à raconter de l'intérieur. Donc, c'est très intéressant, non pas de les confronter pour qu'ils s'entrechoquent, mais au contraire, qu'ils se complètent.
Oui, parce que il y a eu une main basse, un hold-up culturel de la part.
Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est un hold-up? Est-ce que c'est
Non, mais
maintenant ça va être complémentaire. Je suis d'accord.
Oui, non, mais le fait est que depuis le 19e, colonisation, tout le voilà,
ça a été raconté d'un seul côté.
Oui, donc c'est l'Occident qui a fait l'histoire, quoi.
Tout à fait. Il y a une histoire.
Et l'histoire de la musique et l'histoire des.
Mais voilà. De tout. Vraiment de tout. Moi, je m'en compte en musique puisque c'est notre spécialité. Hein. Ouais. Mais il était évident que je faisais le parallèle de dire, apparemment, ça se passe de partout. Donc. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous faire un morceau de monsieur Georges Brassens.
Ah.
Parce que... Alors, c'est un morceau qui s'appelle Le Testament. Et je l'ai arrangé en blues pour lui redonner encore plus sa couleur blues. Je ne suis pas sûr que ça aurait fait plaisir à Georges Brassens, que j'ai pas eu la chance de rencontrer, malheureusement. C'est quelqu'un qui porte un respect exceptionnel. Je trouvais que cet homme avait un talent dépassant les bornes. Il a débordé de talent tout ce qu'il a fait. Donc cette chanson s'appelle Le Testament. Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut, j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient voilier. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurettes aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore mon juponné. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord en effeuillant le chrysanthème qu'est la marguerite des morts. En effeuillant le chrysanthème qu'est la marguerite des morts. Dieu veuille que ma veuve s'alarme en enterrant son compagnon, et que pour lui faire verser des larmes, il n'y ait point besoin d'oignon. Qu'elle prenne en seconde noce un époux de mon acabit, il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Qu'il boive mon vin, qu'il aime ma femme, qu'il fume ma pipe et mon tabac, mais que jamais morde mon âme, jamais qu'il ne fouette mes chats. Bien que je n'ai pas un atome, une once de méchanceté, fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. S'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. Si j'ai une feuille morte, ainsi finit mon testament. On a inscrit dessus ma porte, fermé pour cause d'enterrement. J'ai quitté la vie sans rancune, je n'aurai plus jamais mal aux dents. Me v'là dans la fosse commune, la fosse commune du temps. Me v'là dans la fosse commune, la fosse commune du temps.
À Saint-Gamaz, en direct des studios de Radio Canu, donc avec la chanson de Georges Brassens,
Le Testament.
Superbe interprétation.
Merci
à toi. Une chanson que j'adore en plus. Alors, mais ouais, alors donc peut-être tu. Parce que aussi, je sais pas si ça peut te parler, mais en fait, moi j'avais entendu Brassens, en fait, j'avais entendu qui disait, lui, avant d'écrire des textes, ça a toujours été un musicien, c'est-à-dire qu'il avait des mélodies en tête. Alors, on le connaît, enfin, il y a une image de Brassens qui est peut-être un peu faussée, enfin, un malentendu, alors qui est en train de peut-être se rétablir, bon, réduire Brassens à ses textes. Mais en fait, il y a des mélodies superbes dont tu es donc avec plein d'influences dont tu as parlé un petit peu mais que tu peux après développer, et puis aussi l'idée que moi j'ai entendu Brassens qui disait que avant d'écrire des textes il avait très jeune il a fait des chansons parce qu'il avait la musique des mélodies dans la tête. Alors je sais pas bon.
Alors ce qu'on sait de Georges Brassens, c'est que d'abord il avait une mère italienne. Et que chez lui, gamin, il s'agentait un petit peu, j'ai un peu la même histoire que je raconte d'ailleurs, c'est qu'il y avait énormément de musique autour de lui. Par contre, c'est un autodidacte, hein. Il composait avec un orgue, apparemment, je pense qu'on sait de lui. Hein. Mais en fait, c'était un musicien absolument exceptionnel. Mais je suis toujours étonné, moi, quand on me dit que Brassens, c'est quelque chose de simple, c'est quelqu'un qui a utilisé beaucoup, basé sur le jazz, sur le blues, où il y a énormément d'accords enrichis, enfin, d'accords de passage, ou de choses comme ça. Je pourrais faire une démonstration tout à l'heure si on veut, mais pour les textes, je crois qu'il y a toujours expliqué. Et il faut savoir pour les textes, par exemple, qu'il c'est le seul, même des Léo Ferré, Jacques Brel et compagnie, qui respecte parfaitement la métrique poétique. Les octosyllabes, les alexandrins, c'est quelqu'un qui écrit absolument, c'est d'abord des poèmes, c'est-à-dire qu'au niveau poésie, c'est vraiment fait dans les structures de poésie, ça faut le savoir, mais en plus, c'est quelqu'un qui avait vraiment, quand il a fait de la chanson, il disait que c'était le parent pauvre, mais alors je tiens à faire une remarque là-dessus. Monsieur Serge Gainsbourg a récupéré une phrase de monsieur Georges Brassens, dans l'interview à Troyes, qu'il fait avec Jacques Brel et Léo Ferré. Georges Brassens dit bien que la chanson est un art mineur, mais dans un contexte de chanson. Il explique que la poésie des chansons ne peut être aussi fouillée et aussi raffinée que la poésie, qui elle a sa propre musique, sa propre métrique, et qui se suffit à elle-même. Mais que quand il dit c'est un art mineur au niveau de l'écriture du texte par rapport à la poésie, il dit parce que sinon, ça va diminuer la force de la mélodie ou de la musique derrière. C'est dans ce sens-là qu'il le dit, pas du tout dans le sens de Charles Gainsbourg, qui était un grand récupérateur. Donc c'est pas du tout ce que dit Brassens. Dans l'interview, on peut le relire, l'interview, d'ailleurs, on peut le trouver sur le net, Brassens ne dit pas ça du tout. Je me fous de savoir qui a tort, qui a raison. Je veux simplement dire que la récupération est là, et que c'est récupérant, c'est juste que cette phrase est arrivée. Donc, pour les gens qui écoutent, je veux juste dire, lisez les deux, et vous verrez bien de quoi il s'agit.
Le fait est que Gainsbourg, lui, se référait à la peinture. Enfin, lui, l'argumentaire de Gainsbourg, c'était... Voilà,
mais il récupère quand même la phrase de Brassens, qu'il savait très bien que des gens de son époque, lui, il a d'ailleurs fait partie de l'écurie de Jacques Canetti. Hein.
Ah oui, malgré son talent, Gainsbourg était un grand opportuniste, on va dire.
On
est d'accord, mais...
Je voulais juste dire aux gens, en fait, qu'ils aillent vérifier par eux-mêmes. Hein. C'est pas moi qui vais leur dire... Je vais pas leur dire ce qu'ils ont à penser ou à dire ou à croire. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de leur dire... En tout cas, d'aller voir par eux-mêmes, ils iront par eux-mêmes. C'est comme ça. Moi, il me semble que c'est la meilleure manière d'avoir des réponses si question il y a. Voilà. Donc, par la suite, je sais pas, je voulais quand même parler un peu plus d'Antoine qu'on n'a pas entendu
les deux frères Gamaz, mais en fait, il y a l'harmoniciste des Blue in the Blues qui est quand même là, qui est le plus discret, qui a juste dit bonjour. Ouais. Donc, c'est Antoine Pérez.
Ouais.
Donc,
bonjour.
Oui, parce que qu'est-ce qu'ils sont bavards, les frères Gamaz, dis-moi.
Eh ben, c'est les frères Gamaz, je les ai rencontrés il y a un peu plus de 3 ans, lors d'une manifestation qui s'appelait la Caravane du Blues.
C'est Jean-Paul Massé qu'on salue.
Ouais, Jean-Paul Massé, bonjour. Et quand je les ai vus, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, c'est accompagner des types comme ça, le blues en acoustique. Voilà. Parce que j'avais eu une petite expérience avec du blues plus électrique et je me suis très très vite lassé et j'ai vite arrêté. Et j'ai eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois et de buffer une fois avec eux, 2 fois, 3 fois, 4 fois. ça avait l'air de leur plaire. Et puis un jour, ils m'ont appelé et ils m'ont proposé de venir jouer un concert. C'était au mois de janvier, il y a 2 ans.
J'ai une bonne mémoire.
J'ai pas
une mémoire. Moi, j'ai vraiment mémoire des Caravan Blues, que tu venais beaucoup à nos concerts et que chaque fois je te faisais jammer, ça je me rappelle bien. Puisque Nedjib joue au-dessus de l'harmonica, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, Nedjib avait un peu de problème parce qu'il fallait qu'il assure son chant avec sa guitare et ses parties d'harmonica. Donc, j'ai beaucoup aimé le son qu'il y avait Antoine. Bon, je vais te laisser finir, hein, t'inquiète pas. Je vois qu'il y a le senseur, qu'il y a la boîte. Ah, je plaisante.
Carte blanche, voilà.
Donc, je me rappelais pas que le premier, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Et voilà, donc depuis 2 ans, c'est du bonheur parce que musicalement, j'avais jamais rencontré, la possibilité de jouer à ce niveau-là, et ça m'a permis aussi beaucoup progresser. Et puis, maintenant, je pense que je fais partie du paysage et voilà.
Ça et puis, il y a un lien d'amitié quand même.
Pardon ?
Il y a un lien d'amitié quand même.
Et puis, on est devenus amis maintenant et. Et je vois pas comment je pourrais faire autrement que jouer avec les frères Gamaz ce blues, cette musique que j'aime tant.
Et toi, Antoine, on a parlé des comment les frères Gamaz sont arrivés à la musique. Toi,
en fait, moi, je suis d'abord un mélomane.
Oui.
Je suis venu à la musique assez tard. Hein. Je suis d'abord un mélomane. J'ai beaucoup écouté la musique et puis je voulais devenir acteur de cette musique-là. Et puis, non pas par goût, mais parce que c'était pratique, j'ai appris l'harmonica. Donc je suis d'abord un harmoniciste avant d'être un bluesman.
Absolument.
Ma culture n'est pas dans le blues et j'ai joué du blues par défaut. Voilà. Et à force, finalement, c'est une musique qui est rentrée en moi, on va dire, hein, et je peux plus m'en passer, quoi. J'en écoute beaucoup, beaucoup. Mais vraiment, au départ, c'est pas par goût. C'est vraiment parce que je voulais jouer d'un instrument et puis être acteur. Donc, pendant des années, je jouais pour moi, pour mon plaisir, et puis je allais dans les caves cons et puis je faisais des boeufs. C'était mon petit plaisir. Et je suis venu à la musique dans un groupe, en fait c'est très récent, c'est avec les frères Gamaz, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Parfait. Je vais quand même apporter, ce que je veux dire à Antoine, en profiter. Antoine a apporté aussi une couleur dans notre groupe.
Tout à fait.
Et Hassan va nous rappeler un petit peu aussi le concept de Blown in the Blues, parce que c'est aussi le fait de la rencontre de musiciens.
Alors, Blown in the Blues, oui, en fait c'est la continuité d'un groupement de musiciens, par amitié et puis par goût, qui rassemble tout ce qui est musique afro-américaine, on va dire, mais surtout lié à la chanson française aussi, hein, puisque je suis vraiment venu des deux, même du classique et du jazz, hein, il n'y a pas de souci. Et ça s'appelait Blues Tempo, mais on va dire que la dernière formule de Blues Tempo, ma foi, est partie en brioche et surtout a été un peu plus ou moins récupérée, donc je vais... tirer un trait là-dessus. Et Blowing the Blues est venu parce que je chantais cette chanson de Bob Dylan et je l'ai joué façon Delta Blues, c'est-à-dire en décalant, en ternérisant, comme j'expliquais tout à l'heure. Et le son m'est apparu. C'est vraiment un son. Et c'est marrant parce que on dit toujours que j'ai eu beaucoup d'amis peintres, entre autres dernièrement, j'ai lié une grande amitié avec Jean-Claude Legault, que je ne salue pas parce qu'il est en Chine. Donc,
il y a du blues en Chine.
Oui, non, mais il est là-bas.
Non, mais tu sais qu'avec www.radiocanu.org.
J'ai envoyé des messages aux gens.
C'est justement. Dans le monde entier.
Ah, dans le monde entier, tout
ça,
à fait.
Ça, c'est, ils ont beaucoup de chance.
Il est occupé à des choses. J'ai pas pu le joindre.
En plus, sur un podcast, donc il pourra écouter. Voilà, donc, je te laisse poursuivre.
Donc, voilà. Et on dit que les peintres voient la musique. Et nous, on dit que les musiciens voient la peinture. Donc, c'est quelque chose qui se met comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend Olivier Messiaen, il a fait tout un travail sur la couleur, principalement les dégradés d'oranger. Et il y a eu d'ailleurs toute une thérapie ou aussi un apprentissage de la musique qui se fait par les couleurs. C'est pourquoi vous avez des petites méthodes pour les enfants. On a des couleurs sur les claviers ou des trucs comme ça pour qu'ils se rappellent des notes, parce qu'on leur dit le do c'est telle couleur, le do c'est telle couleur, pour qu'ils puissent le visualiser. C'est une façon didactique d'enseigner la musique. Mais il est vrai que, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est ce que je dis quelquefois, dans les choristes, je suis vraiment pris par ce que je fais, et j'ai vraiment des apparitions de couleurs. Mais c'est furtif, c'est pas quelque chose de... Bon. Et donc, voilà, pour en revenir à Blowing in the Blues, c'est surtout le fait de pouvoir rassembler des gens. Et le dernier étant Antoine Pérez, qui est à mes côtés, j'ai beaucoup aimé le son qu'il avait. Parce qu'il joue de l'harmonica avec une précision dans les notes. Ce qui, des fois, pour le blues, est une gêne, parce que le blues, ça se joue très gras. Et des fois, jouer deux notes en même temps en blues, c'est pas du tout un problème. Or, lui, c'est quelqu'un qui vient de l'harmonica pure. C'est-à-dire, il a travaillé l'instrument avec une technique précise, dont on entend, on pourrait jouer un morceau de country, par exemple, puis là, on va entendre que c'est vraiment approprié à ce genre de musique. Donc, c'est, mais j'avais beaucoup aimé le son qu'il avait, et c'est pour ça qu'on a, donc. Mais, par contre, j'ai fait beaucoup aussi de blues électrique, pour le savoir. J'y reviendrai peut-être, un moment ou un autre, avec basse, batterie et compagnie, dont je salue nos deux compères, Philippe Nichols et Denis Martins, qui font aussi partie de Blowing in the Blues, qui peut se présenter sur des duos, des trios, des quintettes, et voir si on fait l'album cette année. Je sais pas si ça sera cette année ou début de mai. Hein. Je suppose que j'aimerais assez rajouter même des cuivres et des claviers. Il n'y a pas de souci. Tous ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, voilà, je sais que j'ai rencontré, par exemple, des gens comme Thibaut Sabi au piano, Nora Kam à la sax, qui sont des jazzmen. Hein. Je sais plus, moi, plus son nom, le pauvre, je sais qu'il s'appelle Bertrand, excuse-moi mon ami, un trompettiste fabuleux que j'ai rencontré en boeuf, et à qui je propose de faire des choses. On va faire d'ailleurs le Jazz Day à la MJC de Tassin la demi-lune, le 30 avril, et j'ai donc lancé des invitations. Il y aura d'abord les frères Bédèche, avec Tip Matches the Blues, et ces deux frères, comme Jim et moi, qui sont vraiment excellents, que Antoine connaît. Absolument. Ils ont peut-être que Max Macarelli.
Oui, c'est ça.
Qui viendra pour jouer de l'harmonica. Et on va présenter une seconde fois ce que nous avions fait au Jazz Festival de Saint-Fond, c'est-à-dire Histoire de Blues, avec Jean-Claude Legros, qui parle, ce n'est pas l'histoire du blues proprement dite. C'est Histoire de Blues, c'est comment lui raconte l'histoire, comment moi je la raconte, comment en la jouant, ou Medji, mais là c'est ça qu'il s'agit, ce dont il s'agit. Par contre, lui s'appuie sur ses tableaux, qui sont en général des... il a fait beaucoup de tableaux, des portraits, mais c'est pas tellement de ça qu'il s'agit ici, c'est des tableaux de rencontres et d'événements qui se sont passés dans le blues. Donc il explique des choses, ce que c'est que Bourbon Street, ce que c'est que là il rencontre de Robert Johnson et de Sunhouse, enfin ce genre de choses. Et il explique qu'il, voilà, toutes les femmes du blues qui ont été fabuleuses, Ma Rainey, Bessie Smith, Memphis Minnie, enfin, toutes ces femmes qui ont été d'une force pas possible pour remporter des choses, voilà, et donc, Blowing in the Blues s'attache à ça plus que, encore qu'autre chose, quoi. C'est vraiment de rassembler un maximum de gens pour avoir des couleurs différentes, mais, toujours en jouant sur le blues, le jazz, la folk, toutes ces chansons-là, toute cette musique-là, et qui sont liées d'ailleurs à la musique française. Je voudrais juste te faire un tout petit bout pour m'en faire donner un exemple, par exemple, de la chanson américaine, Monsieur Elvis Presley.
Ah oui.
Une chanson a été écrite pour lui. Il a fait ça. Wise man say. Can't help falling in love with you. Bien, en fait, cette chanson est écrite par l'Italien, enfin, américano-italien, et lui ne l'a jamais caché, c'est une chanson française. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Un exemple. Après, il y a, par exemple, si on prend les chanteuses de blues comme Bessie Smith, Ma Rainey, qui était la première, qui était un petit peu son assez. On obtient des choses comme. I live a life of a millionaire, spending all my money, I just didn't care.
Yeah, I get my girlfriends out, morning all time. Drinking bodega whiskeys, sharpening wine. And I begin to fall so low. Lost all my good friends, didn't know how to where to go. I put my hands out on a dollar again. Till I found the eagle in my head, it green. Nobody knows you when you're down and out. And in your pocket you ain't got no penny. Down for the friends, you don't have any. Again, everybody wants to be your very lost, gone best friend. I said I'm just mighty strange without it at all. Nobody knows you when you're down and out.
Ça a donné ce style qui a, par exemple, en France, a été mis en valeur par quelqu'un comme Édith Piaf, avec cette fameuse passage d'accord qui, au lieu du troisième degré mineur, fait, utilise le degré majeur, mais avec la septième. Donc, on obtient « mon Dieu, nanana, voilà, ce genre de truc qui vient du blues vaudeville. Qu'on appelle en français, en anglais dans le texte, pas de ville, hein. Donc voilà. Et ça a donné, donc, je ne veux pas, là, de l'interférence avec les chansons françaises, ou des chansons comme des Grises qui ont donné ça, par exemple, pour Brassens. Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse, bien sûr. Et le chaud me servant de toit, synthétique comme il se doit. Au fond d'une allée en fouille, apercevait ta main fondue, du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter. Et la maîtresse de séant, dans un habit ma foi séant, de fermière de comédie, à ma rencontre descendit. Et mon beau bouquet soudain parut terne en ce jardin, près des massifs de fausses fleurs, offrant les plus vives couleurs. En foulant le faux gazon, je la suivis dans la maison, où brûlait sans se consumer un genre de feu sans fumée. Face au fût refait Henri II, aligné sur les rayons de la fausse bibliothèque, faux bouquin acheté au poids. Aux lueurs des fausses chandelles, retirant ses fausses dentelles. Elle a dit ce n'était pas sûr, tu es mon premier faux pas. Fausse vierge, fausse pudeur, simulateur. Ces anges artificiels, venus d'un faux septième ciel. En l'occurrence, Cupidon se conduisit en faux jeton. En véritable faux témoin, et Vénus aussi, néanmoins, se serait sans doute menti, par omission de ne pas dire que je leur dois quand même une heure authentique de vrai bonheur. Ça donnait ce genre de grille, hein, carrément. Donc on est entre blues, jazz et voilà. Là, je l'ai joué, on a joué beaucoup plus swing, mais Brassens, lui, à chaque fois, décale, revient. C'est une façon de vraiment bluesy de chanter ça. Boris Vian, d'ailleurs, l'a très bien décrit dans une citation que j'avais préparée pour toi, mais qu'elle n'est pas là. C'est dans le fameux bouquin où il parle de la musique, parce qu'il faut savoir que Boris Vian était directeur artistique, aussi bien pour Philips que pour Vogue, je crois. Il a beaucoup, il était d'ailleurs âgé d'un an de plus que les gens le voient toujours très jeune, comme il est mort assez jeune. Mais en fait, il avait un an de plus que Brassens. C'était 1920, l'âge de mon père d'ailleurs. Et Brassens était de 21. Alors voilà, j'ai la citation devant moi, elle dit « Si l'influence exercée par le jazz sur la chanson s'est traduite d'un côté par l'éclosion des talents originaux comme celui de Trenet, elle s'est exercée d'une façon beaucoup moins flagrante et plus subtile en profondeur sur des gens comme Georges Brassens. Et ceci se manifeste dans son interprétation, la manière de chanter de Brassens est souvent comparable à celle des chanteurs de blues, notamment par sa mise en place et sa façon d'attaquer un peu en retard sur l'accompagnement, si caractéristique dans la chasse aux papillons. La netteté du style de Brassens et la fraîcheur de son expression l'apparentent d'ailleurs aux chanteurs noirs folkloriques en ce qui concerne la teneur même de ses chansons. » Et c'est une citation qui est tirée d'En avant la zizique, sous-titrée « Et par ici les gros sous ». Boris Vian, oui, donc c'est fait cette chanson, où il explique tout ça d'ailleurs, hein, le Maurice Chevalier, tout ça, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi il avait une telle admiration pour Maurice Chevalier, qui avait une réputation un peu sulfureuse. Et lui se dit que Chevalier, c'est quelqu'un qui était très important pour la musique française, puisqu'il avait donc eu des rapports avec Duke Ellington. Il faut savoir, entre autres, que Boris Vian était le parrain du fils à Duke Ellington. C'est quelque chose quand même d'assez important. Hein. Ils ont beaucoup fait des choses pour le jazz, même si après il y a eu des accrochages avec Delaunay, qui avait monté la fameuse maison de disques Vogue. Par exemple, il faut savoir aussi qu'il a écrit pour Jazzot, mais qu'il a quitté Jazzot à cause de à cause du côté trop politisé par Jean-Paul Sartre. Donc lui, Boris Vian, c'était un peu mis en retrait pour s'occuper plus du côté musical, artistique. Voilà, enfin, c'est à savoir. Voilà. Ça fait peut-être beaucoup.
Bah, en fait, on a dépassé 10 minutes, mais non, mais c'est passionnant, mais. Il faut vous revenir.
Ben on va revenir avec plaisir, Guillaume.
Grand plaisir, Guillaume. Non, mais je dis ça sérieusement parce que là on a même pas.
Pourquoi on n'a pas l'air sérieux?
Non. Ce que je veux dire, c'est que non, il faut revenir. Il faut qu'on fasse une émission pour fouiller un peu, parce que plus parce que là, même par rapport à l'article que j'ai lu, il y a des choses que tu as dites qui sont pas dans l'article, et même par rapport à l'article, il y a.
C'est gentil. Ouais. C'est on viendra avec grand plaisir. On adore venir chez Radio Canu, donc tu veux qu'on fasse un dernier morceau?
Non, mais alors attends. Avant, il y a une tradition. Non, juste, c'est pour vous, parce qu'il y a une tradition dans musique, etc. Il y a l'instant promo. Alors pour ceux qui s'intéressent, il faut dire donc, on va quand même recentrer.
Oui.
Donc là, vous êtes tous les trois, vous constituez
le groupe Blowin' the Blues.
Blowin' in.
In the Blues, pardon, voilà. C'est mon accent qui est tout pourri. Alors, on vous retrouve où pour...
Alors un peu partout, mais alors là j'ai pas
non,
en tête les prochains concerts.
Non, pour se tenir au courant, le Facebook...
Ah oui, il y a le Facebook, il y a aussi un YouTube, mais par contre au nom de Hassan Yamaz. Hein, donc,
d'accord.
Le YouTube, parce qu'au départ je l'avais fait pour faire une promotion de mes chansons, donc je l'ai gardé, j'ai pris l'habitude de le mettre en relation. On a deux pages Facebook, on peut demander à Hassan Yamaz Facebook aussi, puisque c'est moi qui les gère. Si on veut se faire ami avec moi, on ne peut pas le faire par les pages de Facebook, si pour les gens qui suivent un peu le web. Oui, on est en train de monter un site qui n'est pas encore fini, mais le site sera bientôt en route. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, Nidji?
Je pense que c'est effectivement ceux qui veulent nous retrouver et s'intéresser au blues, qui n'hésitent pas effectivement à consulter le Facebook Blowin' the Blues, et puis le YouTube, et puis tout est marqué, nos concerts, etc. Oui. Et ils n'hésitent pas à nous faire des demandes d'amis auprès de Hassan.
Oui, moi je tenais à dire que donc il y aura un podcast de cette émission au plus tard demain dans la journée. Bravo. Et je mettrai tous les liens.
Merci beaucoup.
Le Facebook de Blowin' the Blues. Non, je l'ai encore mal dit. Blowin' Blues, pardon. Et donc le Facebook d'Hassan Yamaz. Voilà. Et puis donc peut-être répéter le prochain. Il y a un événement là.
Le prochain
concert.
Le 22 mars à l'Oncle Scott, c'est à côté de Bourgoin, à Ruy-Monceau. À côté de. Bon, on va pas citer de nom, on n'a pas le droit de faire de la pub.
Si.
Dafimoto.
D'accord. Voilà. Le podcast avec tous les liens. Et pour écouter cette émission, blog de Radio Canu, musique, etc. Oh, sinon, il y a une page Facebook pour l'émission qui s'appelle Radio Canu, musique, etc. Voilà, donc l'émission avec Blowin' Blues, Hassan Yamaz, Antoine Perez, Najib Yamaz. Voilà, c'était les trois personnes qui étaient là, qui forment le groupe Blowin' Blues. Je synthétise, c'est pour ça, pour bien resituer. Et peut-être un dernier mot, et puis on se quitte en musique. Voilà.
Parce que je voulais juste surtout ajouter que j'ai eu beaucoup de demandes. Je voudrais saluer Norbert Gédusimini qui nous a invités au Jazz Festival de Saint-Fond. Et j'ai eu beaucoup de demandes, parce que les gens qui ont regretté de ne pas être là, puisque ça a eu un gros écho. Alors je voulais annoncer que pour le Jazz Day organisé par l'UNESCO et relié par Jazz à Vienne, nous allons présenter la même chose à la MJC de Tassin-la-Demi-Lune. Donc on peut, je remercie Céline Valac d'avoir monté ça avec nous. Donc ça va se passer le temps très vite, parce que le Jazz Day est une date fixe dans l'année, qui est donc chapeauté par l'UNESCO et qui a été créé par Herbie Hancock à travers le monde entier. C'est une journée vouée au jazz. On va donc présenter Histoire de Blues, que nous avons donc présenté à la médiathèque de Saint-Fond pour le Jazz Blues Festival. Alors, si les gens veulent prendre leur calepin, mais de toute façon, ils auront tout sur nos...
C'est le 30 avril, hein.
Oui. Ils auront tout sur les pages Facebook. On en a deux, donc tout ça sera bien noté là-dessus.
Donc, je répète, Facebook...
Blowin' the Blues. Il y a deux Facebook.
La page... ça, c'est la page du groupe, et donc il y a le...
Il y a Hassan Yamaz Facebook, si on veut me contacter.
Et on retrouvera les liens, donc, je le répète, sur les blogs de Canu, à musique, etc. Je mettrai les liens pour retrouver toutes ces infos, voilà.
D'accord.
Non, mais après, je vais pas vous presser. Non, mais c'était juste pour que les gens... Enfin, je pense qu'il y a des gens que vous avez passionné, quoi. C'est pour ça que j'essaie d'être clair, pour vraiment que les gens...
Merci. Tout le monde est bienvenu, hein.
Moi, vous m'avez passionné, alors j'imagine. Et donc, pour bien que les gens puissent faire le lien, vous voyez, vous retrouvent, quoi. C'est pour ça que j'insiste sur là-dessus, quoi. Donc, on se quitte en musique.
Oui, avec un morceau de... Justement, tout à l'heure, j'en ai parlé, je me suis coupé, d'un monsieur qui s'appelle Bigby Blondie, donc William Blondie, qui a été celui qu'on a pris pour remplacer M. Robert Johnson en le présentant comme le dernier bluesman du Mississippi. Or, c'était pas vrai, il était parti Chicago, il avait déjà fait du rhythm blues et tout, mais qui avait encore gardé la technique de picking et de flat picking à travers le blues, comme va le développer aussi Mississippi John Hurt plus tard, des choses comme ça. Et donc... On va vous jouer un morceau qui est assez connu dans le milieu, qui s'appelle Key to the Highway, qui veut dire la clé de l'autoroute. Mais savoir quand, pour, si on veut que les Français comprennent ce qu'il veut exprimer, c'est plutôt j'ai pris la clé des champs. Parce que dans le blues, souvent, on parle de ce qu'est la condition, de ce que sa condition, et les choses qu'on n'a pas accès justement à cause de sa condition. Et le plus, c'est l'amour. Donc il explique qu'il quitte sa femme pour des questions matérielles, qu'ils ne peuvent pas y arriver à vivre en couple et tout, parce que lui, voilà, c'est souvent un thème très récurrent dans le blues, au premier degré. On y va.
C'était musique, etc. avec le groupe
Blowing in the Blues.
Donc il y avait de gauche, de ma gauche à ma droite, Najib Gamaz.
Salut, merci Radio Canu.
Antoine Pérez.
Merci Radio Canu.
Hassan Gamaz.
À bientôt Guillaume.
Ouais, mais non, si on se non non, mais si, il faut vous là où vous faites partie du club là. Ah, vous allez revenir dans la musique etc. régulièrement. Je voilà. Et donc oui, je rappelle on, donc Facebook Blowing the Blues.
Blowing in the
oui,
Blues.
Oui, c'est moi. Il faut mieux que tu lises toi. Ton Facebook Hassan Gamaz.
Oui, tout
et
à
puis
fait.
Donc moi je
et mets... YouTube Hassan Gamaz.
Ouais, Hassan Gamaz aussi. Et donc moi donc podcast dans la journée de demain ou plus tard, voilà. Et puis je mettrai les liens donc blog de Radio Canu musique etc. Et enfin page Facebook de l'émission Radio Canu musique etc. Le podcast de cette émission et je mettrai les liens pour voilà. Que vous venez, dont vous venez de parler. Bah, merci beaucoup. Non, mais vous,
merci à toi. Merci,
toi
ton accueil,
merci
à Radio Canu.
Non, non, mais promis, vous. Vas-y. Hein. Mais vous revenez. Hein.
Ah, mais avec grand plaisir.
Voilà, là, vous avez la carte là, de l'émission.
Pas de souci. Voilà. À bientôt.
Voilà.
Salut.
Générique.